radio MDM, mais Fiat, c'est de la bonne.
Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de radio MDM et je vous souhaite la bienvenue. Et quel plaisir, Jean Rambat, que de te recevoir ce matin.
Bah, plaisir partagé, Jeannot, merci, ouais. Merci de l'invitation.
Alors, juste pour l'anecdote, comme ça, plaisir, parce que depuis que nos routes se sont croisées, à chaque fois que je t'ai croisé, justement, ça a été vraiment un plaisir dans les échanges, dans, je sais pas, la sorte de c'est pas sérénité, curiosité que tu dégages, je sais pas si les mots, ils ont été très bons.
C'est très sympa, mais...
Mais vraiment. Et puis alors, vraiment plaisir aussi pour la découverte de la pièce manquante, la dernière œuvre dont on va parler, sortie en octobre dernier chez Dargaud. Je l'ai dévoré tout récemment, depuis que tu as eu d'ailleurs le plaisir de nous la mettre dans la petite boîte aux lettres. Enfin, ceci est une autre histoire absolument indispensable dans votre bibliothèque pour cette nouvelle œuvre de Jean Rambat. Je vais juste reprendre comme ça pour cadrer le propos l'extrait du dossier de presse qui évoque et qui présente un petit peu cet ouvrage, la pièce manquante. En 1744, Margaret Peck Woffington, actrice vedette d'un théâtre londonien, en a assez d'être cantonnée à des rôles d'hommes et rêve de jouer un grand personnage féminin. Son majordome, Sancho, un descendant d'esclaves férus de littérature, lui souffle une idée, elle pourrait être Dorothy ou Dorothea, c'est comment qu'on dit d'ailleurs ?
Dorothea.
Ouais, je me suis douté un peu, parce qu'il y a un petit côté hispanisant. La vibrante héroïne de Cardenio, une pièce de Shakespeare, qu'il a tirée d'un épisode de Don Quichotte de Cervantes.
Oui, ça fait beaucoup d'informations.
Ouais, il y en aurait d'autres, mais j'arrête là pour te laisser la place, quand même, parce que c'est quand même toi qui va le mieux nous en parler, forcément.
Oui, tu as dit plutôt c'est une autre histoire, mais en fait, c'est aussi à cause de ton accueil chaleureux et de tes invitations répétées lors de nos rencontres que je me suis permis de t'envoyer l'album.
Bien sûr.
Et puis, cet album avait une petite touche irlandaise, comme tu dis. En fait, cette comédienne, elle était irlandaise, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et elle veut le rôle d'une pièce de théâtre écrite par Shakespeare. Inspiré de quelques chapitres de Cervantes. On le sait un petit peu, Shakespeare écrivait des pièces qui s'appuyaient sur des récits qui piochaient à gauche à droite, dans la mythologie, dans la, des dramaturges contemporains, des dramaturges plus vieux. Et là, il avait piqué, avec un de ses collaborateurs, il avait piqué quelques chapitres de Don Quichotte et il avait écrit une histoire à partir de ça. Et cette réunion, ce trait d'union des deux grands génies du XVIIe a existé, a produit cette pièce-là qui a disparu avec tous les fantasmes que ça évoque. Donc, comme d'habitude, je me plonge dans la grande histoire, je creuse j'essaye de dégoter des histoires plaisantes, amusantes et aussi un peu profondes, j'espère.
Mmh. Ah oui, d'une profondeur, ça, on reparlera des dialogues qui m'ont bien attiré aussi l'attention sur cet ouvrage, la pièce manquante. Recadrer, redire peut-être que tout ça, c'est tiré de faits réels et de personnages existants, Jean.
Oui, c'est ça. Je voulais faire depuis longtemps une course au trésor. Je fais des bandes dessinées assez différentes les unes des autres. J'ai besoin de changer un peu de thème à chaque fois. C'est vrai que souvent je fais des livres qui parlent d'autres livres, mais avec la bande dessinée qui est un art populaire, j'essaye de faire des choses un peu quand même plaisantes, enlevées. Mais mon grand plaisir, il est dans le faire aussi, quand on dessine, quand on écrit et quand on recherche. Et très souvent, que ce soit dans la comédie ou dans l'épopée, je m'appuie sur des choses réelles, historiques. En l'occurrence, j'avais entendu parler de cette pièce perdue de Shakespeare, de son lien avec Cervantes. Et alors, je me suis dit comment faire une BD d'aventure un peu entraînante, étourdissante, qui fasse référence aux comédies de Shakespeare que j'aime beaucoup, qui sont pleines de douceur et de gravité à la fois. Et je me suis souvenu de ça. Et alors, par contre, ce que je connaissais mal, c'était le contexte anglais du XVIIIe siècle.
Ouais.
Et là, je suis tombé à l'amour presque sur cette comédienne irlandaise, la Peg Woffington, qui était une saltimbanque qui venait de la rue de Dublin, qui avait été presque une enfant des rues. Elle avait été vendeuse d'oranges, elle avait été danseuse de cordes, funambule, et puis c'est devenue une des premières vedettes de la scène anglaise dans des rôles très populaires. Et elle avait ces fameux. J'ai appris qui c'était fameux, ses rôles en pantalon. Donc elle jouait dans des sortes de comédies musicales, des rôles masculins, avec des bottes, des fuseaux, et le public masculin venait en masse voir ses jambes, les plus belles jambes de Londres.
Ouais, ouais. Et d'où la frustration aussi pour elle à ce moment-là, au début de l'histoire, quoi. Parce qu'elle a absolument joué le rôle d'une...
Oui, oui, on se dit que c'est peut-être une projection contemporaine, mais en fait, non, je trouvais des études historiques qui parlaient de ça, cet emprisonnement, un petit peu, du physique de ces personnages féminins, de ces comédiennes. Elles se faisaient la guerre, il y avait ce qu'on appelait la guerre des reines, il y avait d'autres comédiennes là, qui se tiraient la bourre pour avoir les meilleurs rôles sur scène. Et dans mon histoire, Peg Woffington, qui est célèbre pour ses rôles en pantalon, où elle chante, elle danse, elle tire au pistolet, elle aspire à un rôle plus sérieux, un rôle qui élève sa carrière. Et c'est là où j'ai un peu triché, je lui fais rencontrer quelqu'un qu'elle a sans doute croisé, qui est son majordome dans l'histoire, mais qui dans la vraie vie n'était pas son majordome à elle, mais qui est un personnage...
Ah, lui aussi, c'est un sacré personnage.
Ah, c'est quel numéro, numéro. Ouais. Alors, lui aussi, il m'est tombé... tout cuit dans l'escarcelle, là, quand j'ai fait mes recherches. Et son vrai nom était Sancho, parce qu'il... Enfin, son nom, on l'a baptisé ainsi parce qu'on lui trouvait une ressemblance avec l'écuyer de Don Quichotte, qui était... Il faut dire que Cervantes, c'est ça qui est intéressant, pour simplifier peut-être pour nos auditeurs, Cervantes a été extrêmement populaire en Angleterre. Tout de suite, dès la parution du livre premier de Don Quichotte, il est traduit, il est vendu dans des petits livres de par l'école Porter, des livres illustrés, des petites... il sort du livre, il est vraiment... Et il influence toute la société, le théâtre aussi. Et voilà, et même ce jeune homme qui sera baptisé Sancho, qui avant de devenir... un homme public aura été majordome et aura tourné comme ça autour du monde du théâtre. Donc je l'associe à Peg Woffington et tous les deux, ils cherchent cette pièce manquante, cette pièce de
théâtre.
C'est leur
quête, quoi. C'est leur quête quoi.
Exactement.
C'est un peu...
Non, c'est le bon mot. C'est évidemment, c'est un Don Quichotte au féminin et son Sancho qui recherche un grand rôle. Bon, c'est aussi prétexte à des péripéties avec des bandits sortis des Monty Python et des clubs féminins et des tas de choses qui sont dans ma bande dessinée qui parfois dans l'histoire aussi et que dans la grande histoire et que j'essaye de cuisiner pour faire quelque chose d'amusant.
Ouais, on suit leur aventure autour de la recherche donc de cette pièce perdue. Non, on ne dit pas ce qui se passe après au fur et à mesure, parce que forcément, ce serait dévoiler la fin et ça, ce serait vraiment pas bien. J'évoquais tout à l'heure l'enthousiasme partagé par toutes celles et ceux qui l'ont déjà lu, j'ai vérifié, autour des dialogues aussi, de l'écriture. Il y a une attention particulière, c'est très écrit, mais très écrit dans le bon sens du terme, quoi.
Oui, je te remercie, c'est vrai que la BD, c'est un... le dialogue compte, c'est un art du dialogue. Ce sont des dialogues qui sont lus, relus. La richesse des bandes dessinées, c'est qu'on peut les relire, on s'y plonge, on s'y replonge. Moi, je trouve que c'est souvent négligé dans la bande dessinée. J'avais le souvenir quand même de quelqu'un comme Hugo Pratt, par exemple, qui dessinait Corto Maltese, qui avait des dialogues très fins. Il était futé pour faire des dialogues comme ça, avec un peu de sarcasme, d'ironie, mais pas trop. C'était très bien ciselé aussi. Il se trouve que là, ça clôt une sorte de trilogie anglaise. J'ai fait trois albums qui tournent autour de l'Angleterre, à différentes époques, autour de différents thèmes. Et ce qu'on appelle l'understatement, le sous-entendu anglais, est quelque chose d'amusant à manier. Alors, c'est quelque chose, j'aimerais manier ça dans la vie avec beaucoup plus de vitesse et de répartie. Il me faut parfois des mois pour trouver une bonne réplique, mais voilà, je l'écris et j'aime écrire des dialogues de ce type-là et que faire des sortes de jeux de ping-pong entre les protagonistes.
Ah bah, c'est pas du tout pour te gêner hein, que j'essaie de partager le vrai enthousiasme, plaisir que j'ai eu à suivre ces aventures. C'est d'un rythme incroyable. Enfin, je veux dire, c'est quand tu rentres dedans, il y a ce côté-là que tu as voulu marquer aussi.
Je voulais un côté tourbillon, quoi. Une sorte de tourbillon. Avec cette actrice. Alors, j'avais déjà fait bien des personnages féminins dans mes bandes dessinées qui partageaient la vedette. Mais là, elle est sur le devant de la scène, encore que Sancho est quand même aussi presque à égalité. Et cette comédienne-là qui cherche un grand rôle, je trouvais cette situation amusante de chercher un grand rôle féminin, inédit. Il se trouve que Peg Woffington, elle a été un peu oubliée, mais on lui a consacré des films, des pièces de théâtre, des romans, évidemment des biographies. J'avais en tête, moi... pour créer ce personnage, pour le recréer, parce que je m'inspire évidemment de ce que je trouve dans les éléments biographiques, mais je lui donne un aspect, une vie de dessin.
Ouais.
Et alors j'avais en tête, je ne sais pas qui se souvient de cette rousse-là, mais c'était la reine du Technicolor, c'était Maureen O'Hara, qui était une comédienne du cinéma classique hollywoodien, qui avait ce côté un peu revêche, comme ça, un peu sauvage. que j'ai donné à ma Peg Woffington.
Au niveau couleur aussi de cet ouvrage, parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie recherche, un vrai souhait autour de tout ça.
Je te remercie d'en parler. Ça, c'est, j'ai fait parfois moi-même la couleur de certains de mes albums, mais depuis quelques années, je travaille avec un duo de coloristes, un couple, Isabelle Merlet et son mari Jean-Jacques. Jean-Jacques Rouget qui a fait les couleurs du précédent album et qui a fait celui-là avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'abnégation. Il a pas compté ses heures pour mettre en couleur cette Angleterre, une Angleterre dorée un peu du XVIIIe siècle. Il y avait plein de scènes compliquées à mettre en couleur. Moi, je travaille à la plume, hein, à l'ancienne, avec je fais même l'arrière-plan au crayon papier pour donner plus de profondeur au dessin. Tout ça, c'est numérisé, c'est envoyé au coloriste qui, lui, bien qu'il travaille avec des outils informatiques, a une formation traditionnelle. Lui et sa femme, ils ont mis des albums en couleur au pinceau, comme autrefois, comme sur les albums d'Hergé. Et là, il bosse comme des dingues pour essayer d'avoir une couleur juste, vivante, pas trop bavarde, qui accompagne le récit, qui amène de la narration aussi. C'est un travail qui n'est pas assez évoqué dans le monde de la BD, mais qui est capital, en tout cas pour mes albums à moi.
Quelque chose qui m'intrigue beaucoup aussi, sans être forcément un spécialiste de bande dessinée, mais quand même, c'est au niveau des cadrages aussi, tu vois, et de la façon dont vous mettez en place, ou tu mets en place donc, ces moments dialogués, pas dialogués, grand format, long format, enfin, tu vois ce que je veux dire.
Oui, faut une forme d'alternance, faut le sentir. Il y a aussi des virtuoses du cadrage, mais ça peut être... ça peut sortir de l'histoire. Il faut trouver le bon dosage de une BD, ça a besoin d'être limpide. Si tu veux qu'on parle cuisine, il faut qu'il y ait cette facilité pour entrer dans la page et en même temps une forme de variété. Moi, j'aime bien faire des petits moments sans tracer les cases, par exemple, pour aérer le dessin, pour respirer. Et ça aussi, ça donne aussi un rythme. Ça arrête le lecteur sur telle grande image ou bien telle image qui n'a pas de case ou telle couleur qui fait une rupture comme ça. Tous les moyens sont bons pour rythmer le récit.
Ouais.
Mais en même temps, comme c'est de l'image, évidemment, c'est très difficile d'en parler. Faut le sentir un peu. J'espère qu'avec maintenant 15 ans d'expérience, je maîtrise un peu mieux ces codes et ces... cette cuisine-là.
Alors c'est vrai que c'est un petit peu difficile de parler de BD, mais on est en train d'essayer de le faire quand même, mais je pense que c'est quand même pas si inutile que ça, voire même assez intéressant. Par exemple, je sais pas, une entrée en matière, pour entrer dans une BD, j'imagine que c'est un moment particulièrement important aussi quand tu débutes de l'aventure, quoi, que de trouver l'accès comme ça.
Oui, alors ça c'est toujours un peu risqué, parce que il faut pas quelque chose de conventionnel, bien sûr, mais il faut pas perdre le lecteur aussi, celui qui va rentrer dans une librairie BD, va ouvrir la page, va lire les deux premières pages. Donc moi, en l'occurrence, l'introduction de ma bande dessinée, ça a été sur trois pages un gros travail de recherche historique parce que je voulais recréer le cadre du Globe, le fameux théâtre où travaillait la troupe de Shakespeare, pour représenter la mise en scène de cette pièce qui s'appelle Cardenio, écrite par Shakespeare, inspirée par Cervantes, pièce qui a disparu. Donc, dont on n'a pas le texte, évidemment. Donc, j'ai dû faire pasticher Shakespeare pour mettre en scène ces personnages qui arrivent sur les planches shakespeariennes, sur les planches anglaises de 1612. Et la fin de l'introduction, c'est l'apparition de Don Quichotte et Sancho Panza en costume élisabétain sur les planches du Globe. Et alors j'espérais que ça allait surprendre, intriguer suffisamment le lecteur, la lectrice, cette combinaison des deux éléments du théâtre de Shakespeare et ses personnages de Cervantes, pour qu'il ait envie de savoir de quoi cause un peu cet album et lire les pages suivantes.
Et il y a même la rencontre imaginée entre Shakespeare et Cervantes aussi.
Oui, c'est ça, à un moment... Alors j'aime bien faire des rêves en bande dessinée. Hergé a dessiné des rêves du Capitaine Haddock, de Tintin, tout ça, ça avait marqué ma jeunesse de lecteur. Je fais des choses un petit peu comme ça dans cet album, à deux différents moments de l'histoire. Il y a Sancho qui rêve, avec des souvenirs un peu fantasmés, la présence de Don Quichotte. Et puis, Peg Woffington, ma comédienne, elle rêve la rencontre de ces deux géants de la littérature qui parlent de comédie et de tragédie et se chamaillent comme des vieilles filles.
Alors, avant qu'on oublie quand même, il y a une rencontre, ce week-end. Hein?
Oui, c'est ça. J'ai été invité par la librairie Bulle d'Encre à Mont-de-Marsan, comme souvent, avec toujours beaucoup de fidélité de leur part. Et donc, je vais rencontrer les lecteurs, comme on dit, et signer, faire dédicacer demain, samedi, à 15h jusqu'à 18h ou 19h. Voilà, enfin, une bonne partie de l'après-midi.
Un petit peu comme tu l'as fait pour Radio MDM aussi,
voilà.
Avec, qui est là et qui nous dit « Vive, Jeannot, vive Radio MDM !» Évidemment.
Bon, c'est un exercice un peu propre à la bande dessinée.
Ouais.
Alors, on dit que c'est Franquin qui a inauguré tout ça. Franquin, le dessinateur de Gaston Lagaffe et de Spirou et Fantasio, qui a commencé à signer les albums quand il y avait des festivals comme ça, des rencontres avec lectrices et lecteurs. Il faisait sa signature, puis hop, il agrémentait ça d'un petit dessin, il continuait le trait, il dessinait un marsupilami ou que sais-je. Et c'est devenu un peu un passage obligé, mais que moi je trouve assez plaisant, peut-être aussi parce que j'en fais pas trop, je me préserve. Donc dans les dédicaces, en festival, en salon, en librairie, on discute avec le lecteur, la lectrice, et puis c'est un petit moment d'échange qui est, je crois, facilité par le dessin. Le dessin, on fait un petit dessin, plus ou moins complexe, hein, mais moi je fais des petites aquarelles en couleurs assez simples, j'essaye de varier, mais parfois je reviens un peu sur des mêmes dessins, mais ça permet une... ça facilite un échange, on est un peu moins coincé comme ça, on peut discuter de choses et d'autres avec nos lecteurs.
Ah, je remets le micro, c'est mieux. L'objet est magnifique, hein, quand même. Il y a une attention particulière, j'imagine, pour tout ça.
Hein. Oui, c'est vrai. Alors là, il y a des gens qui travaillent avec moi qui sont très attentifs à ça, que ce soit pour les éditions d'Arco, pour les derniers albums, mais tous mes autres éditeurs ont en bande dessinée, dans la bande dessinée franco-belge, on tâche de faire des beaux objets, ils y prêtent une attention, c'est très important, beau papier, belle impression, c'est très important l'impression, parce qu'on vérifie un peu comment sortent les pages, la couleur, et alors ça c'est bien de pouvoir compter sur ses collaborateurs, parce qu'on est en fin de course, quand on est à la fin de l'album, on est un peu lessivé, et on a tendance un peu à décrocher un peu de toutes ces choses techniques-là. Et le studio graphique de Dargo est très, très compétent pour ça.
On est à peu près un mois après la sortie de cet ouvrage, hein, si les calculs sont
à peu près bons. Oui.
Juste la tendance, comme ça, genre en bas, depuis que c'est sorti, tu as été le défendre, le présenter. Comment ça se passe ouais, j'imagine que oui.
Oui, parce que je suis... comme je suis très paresseux, voire inexistant sur les réseaux et sur Internet et tout ça, je en contrepartie, en revanche, je joue le jeu quand même de la promotion, comme on dit. Et puis, donc on accompagne l'album. Alors, il y a eu les rendez-vous de l'histoire de Blois, qui est une sorte de festival de Cannes des historiens que j'aime beaucoup, qui a sorti l'album en avant-première. Donc, je suis allé à Blois pour ça il y a un mois pile. Et j'aime bien parce que j'ai pu faire une rencontre avec un grand Shakespearean, Michael Edwards, qui dont les livres ont compté pour moi. Puis tous les deux, on s'est retrouvés à parler de Shakespeare devant une audience à Blois. Voilà, je suis allé à Saint-Malo, où il y a un gros festival de bande dessinée, en Suisse également, à droite à gauche. C'est pas des tournées de rockstar, hein, mais ça me plaît bien quand même de d'être là pour la sortie du livre.
Alors, comme une évidence, puisqu'on approche des fêtes de fin d'année, des cadeaux, mais ça, c'est une porte ouverte que je suis en train d'enfoncer. On aurait pu parler aussi, mais non, mais c'est vrai, faire un promo pour la promo, mais quand même, quoi. Enfin, voilà,
t'as raison, tu parlais de l'objet bande dessinée, la bande dessinée, ça reste un cadeau. Donc, la fin d'année est très importante, bien sûr. Ça s'offre. C'est pour ça que, d'ailleurs, la concurrence numérique, entre guillemets, n'est pas vraiment là. Les bandes dessinées se lisent pas vraiment sur écran. L'importance du cadeau est toujours là.
Je sais pas, en fin d'année, comme ça, tu te fais un petit compte miné, le livre sur la saga des boutons d'or du côté du lycée Victor Devry, puisqu'on sait évidemment, Jean-Romat, que tu aimes beaucoup aussi le monde de l'Ovalie. Tu
jouais ça avec.
Et que tu étais à Durry. Tu as joué au bouton d'or d'ailleurs, ou tu as fait du rugby un petit peu
Je faisais du basket à ce moment-là, et la chanson précédente me faisait marrer parce que c'était dans le basket, dans le rugby, mais on avait un peu les
mêmes coachs.
Les mêmes coachs, plus ou moins bourrins.
Alors, on aurait pu aussi parler de l'aspect musical, parce qu'il est très musical, elle est très musicale.
Ah, oui,
BD, paradoxalement,
qui doit te toucher.
Ouais.
Shakespeare a écrit des chansons dans toutes ses pièces de théâtre, dans ses comédies, hein, surtout il y a les personnages fous ou pas qui se mettent à chanter. C'est des tout d'un coup, et là on bascule. C'est ça aussi qui me touchait chez Shakespeare, c'est que Shakespeare, il est universel, il parle de tout le monde et à tout le monde, hein, au globe, à aller aller voir ces pièces, l'aristocratie, comme les prostituées ou les paysans en ville, c'était pour tout le monde. Et il a écrit ces chansons très simples qui font souvent référence à la nature, aux végétaux, aux arbres, aux fleurs, au monde paysan, au cycle des saisons. Ça, c'est j'adore ces chansons-là. J'en ai même tenté d'en refaire une à la fin du livre. Mmh. Il se trouve que le personnage qu'on a évoqué tout à l'heure, Sancho, qui a eu un destin particulier, ça a été le premier homme d'origine africaine à voter aux élections britanniques. Il est devenu un homme public, un peu un homme de lettres, un homme de musique. Et il était très admiratif de Shakespeare et il a mis en musique les chansons de Shakespeare. C'est mis en musique, ces chansons de Shakespeare mises en musique par un des personnages de ma BD, donc sont conservées à la librairie, à la British Library de Londres.
Et tu sais s'il y a des enregistrements de ça?
Oui.
J'ai essayé de le trouver, j'ai pour l'instant mes recherches infructueuses.
J'essaierai de te faire suivre ça. On trouve ça et c'est d'ailleurs très touchant parce que Sancho, qui était lui-même une sorte de Falstaff. Falstaff, c'est le gros bouffon dans plusieurs pièces de Shakespeare, qui est à la fois très drôle, très comique, et très fou et très sage. Et Sancho, il s'est, à cause de sa condition, sans doute, il s'est intéressé à la condition des fous de Shakespeare, qui sont des personnages de l'entre-deux, qui sont toujours un peu à la marge, qui naviguent entre différents mondes. Et... voilà, c'est un peu le genre de correspondance que j'essaye de faire dans mes BD, c'est-à-dire il y a un côté entraînant, amusant, j'espère, comme une bonne BD d'aventure qui se lâche pas.
Mais c'est ça, mais c'est pas.
Mais voilà, mais aussi j'essaye d'inviter tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à cette bande dessinée, à s'intéresser de plus près aux personnages, aux destins, aux petits symboles, codes qu'on met dans un livre comme ça, aussi léger soit-il.
Je peux me permettre de rappeler que pour la rédaction des Matijanals, la mission, ce que tu es en train d'évoquer, ça a été complètement réussi, et même plus encore. C'est tellement vraiment un énorme plaisir à la lecture de la pièce manquante. Vraiment, Jean Arambat, la pièce manquante. Alors j'avais une question là, judicieuse, avec un truc qui me paraissait enchaîné. Ah oui, c'était le côté, est-ce que comme les acteurs qui sont dans leur personnage, toi qui as écrit, qui as été accompagné de tous ces personnages, ils sont encore avec toi ou tu les laisses au fur et à mesure partir?
Sûr, c'est dur de les laisser. Moi, j'ai fait des albums. Il se trouve que, enfin, tous les albums, bien sûr, ils ont leur importance. Mais ces personnages-là, peut-être parce que je suis parti de l'idée et j'ai trouvé les personnages après. Je suis parti de l'idée de la quête du livre et c'est ensuite en creusant dans la documentation que j'ai trouvé Peg et Sancho. Mais toujours est-il que je me suis vraiment, c'est un peu idiot de le dire, mais très, très attaché à eux. Et allez, j'aimais beaucoup les faire fonctionner ensemble, les faire parler ensemble, trouver des choses qui pouvaient être pertinentes pour la trajectoire de chacun d'eux. C'est toujours avec une certaine douleur qu'on les abandonne. Alors là, ils ne sont pas complètement abandonnés, parce que je vois des gens qui m'en parlent et puis je discute avec journalistes ou lecteurs, lectrices. Mmh. À la radio ou pour la presse écrite. Donc, ils sont toujours un peu là, mais ça sent le revoir quand même.
Ouais. Bah, tu sais quoi, j'étais limite tombé amoureux de Peg, moi. C'est vrai. Alors, je sais pas si j'aurais réussi à suivre le rythme, parce qu'elle pétille quand même. Hein,
elle pétille. Alors, elle a un destin. J'avais failli mettre ça dans la bande dessinée, parce qu'elle est presque morte sur scène comme Molière. Elle a eu une fin de vie en jouant une pièce de Shakespeare où voilà, sa santé a chuté tout d'un coup. Elle est décédée elle avait déjà un âge respectable, mais elle jouait, je ne sais plus, Rosalène, un personnage d'une pièce de Shakespeare, et elle est tombée sur scène comme ça. Elle est morte peu après. Je trouvais ça très beau. J'avais intégré ça un peu dans la bande dessinée. Puis mon éditrice, qui est toujours de bon conseil, m'a dit non, restons dans la comédie, éloignons ces ombres-là et terminons dans la gaieté, et j'espère que c'est le cas.
Oui, c'est le cas, Jean Arambat. Grand merci, Jean, d'être venu dans les studios de Radio MNM pour évoquer la sortie. Donc, la pièce manquante, ça fait un mois que c'est sorti, session de rattrapage à la librairie Bulle d'Encre ce samedi, puis tout au long des semaines à venir, parce qu'on se permettra justement d'y revenir.
Jean-Robin.
Merci, merci beaucoup, Jean-Robin.
Merci beaucoup. Illustration musicale, comme je n'ai pas trouvé là, les chansons chrétiennes.
Oui, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as trouvé ?
Tu me diras après, c'était juste, ce n'est pas très, très original, c'était pour aller à Londres, tout simplement, avec Benjamin Clementine, tu vois, ce n'est pas non plus la plus originale. Tu connais Benjamin Clementine aussi ?
Oui, bien sûr, c'est super.
Bon, après, tu me diras ce que tu avais pensé, on fera et quoi, tout ça. Merci beaucoup, Jean-Robin.
Merci, Jean-Robin.
Plaisir de te recroiser.
Sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably be jumping Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, woke out the door with her. See everyone dressed in black, the classes seemed too far to fetch. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, drop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I'm mine, I'm mine, I'm mine. Before in you, he said, although not clear as the morning dew. Though my preferred way are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming.